La vie est un songe, de Pedro Calderón de la Barca. Traduction de Damas Inar, 1845, domaine public. Personnages. Basilio, roi de Pologne. Sigismond, prince. Astolphe, duc de Moscovie. Clotaldo, vieillard. Clairon, valet bouffon. Estrelia, infante. Rosaura, dame. Soldat, garde, musicien, cortège. Journée première. Scène 1. Un site sauvage, des montagnes, une caverne. On voit paraître, sur le haut d'une montagne, Rosaura, vêtue en homme, portant des habits de voyage. Elle commence à parler en descendant la montagne. Rosaura. Impétueux hippogriffe, aussi rapide que le vent, arrête-toi. Pourquoi, éclair sans flamme, oiseau sans plume, poisson sans écailles, et quadrupède sans instinct naturel, pourquoi donc t'emporter et t'élancer, le mort aux dents, au milieu du confus labyrinthe de ces rochers dépouillés? Arrête, te dis-je, arrête-toi sur cette montagne, où les animaux sauvages auront aussi leurs fêtons. Pour moi, je ne veux pas aller plus avant, et terminant mon voyage où m'a conduite le destin, désespéré, je descends les hauteurs escarpées de ce mont sourcilleux qui brave le soleil. Oh, Pologne, ce n'est pas là une attrayante hospitalité que celle que tu m'offres, puisqu'au moment où je mets le pied sur ton sol, tu permets que je le rougisse de mon sang. Hélas, mon sort ne me promettait pas davantage, et qui jamais eut pitié d'un malheureux. Entre Clairon, il descend par le même côté. Clairon. Vous pourriez bien dire deux, s'il vous plaît, et ne pas m'oublier quand vous vous plaignez. Car si nous sommes deux qui avons quitté notre pays pour chercher les aventures, deux qui sommes arrivés jusqu'ici, à travers toutes sortes de folies et de disgrâces, et deux encore qui avons dégringolé du haut de la montagne, il n'est pas juste que j'aie partagé les périls et qu'ensuite je ne sois plus compté pour rien. Rosaura. Je ne te comprends point dans mes plaintes, Clairon, afin de ne pas t'enlever le droit que tu as à tes propres consolations, en pleurant ton infortune. Car, comme disait un philosophe, on éprouve tant de plaisir à se plaindre que, pour pouvoir se plaindre, on devrait presque chercher le malheur. Clairon. Le philosophe qui disait cela était un vieil ivrogne. Si je le tenais, je lui donnerais quelques douzaines de soufflets et autant de coups de pied, et ensuite il pourrait se plaindre, tout son sou. Mais, madame, dites-moi, qu'allons-nous faire, tous deux, seuls, à pied, à cette heure, en ce lieu désert, et au moment où le soleil disparaît de l'horizon ? Rosaura. Quelle singulière et triste aventure ! Toutefois, si mes sens ne s'abusent, si mes yeux ne sont pas trompés par mon imagination, il me semble qu'à la clarté incertaine du jour qui finit, j'aperçois là-bas un édifice. Clairon. Vous avez raison, ou bien mon désir et mon espoir en ont menti. Rosaura. Je vois, au milieu des âpres rochers, une habitation si étroite, si basse, et d'une architecture si grossière, que l'on dirait un roc détaché qui a roulé du haut de la montagne. Clairon. Approchons-nous, madame, et au lieu de regarder ce petit palais, prions les personnes qui l'habitent de vouloir bien nous y recevoir. Rosaura. La porte en est ouverte. Mais quoi ? Le regard, en plongeant dans ce sombre lieu, n'y découvre que la nuit. On entend un bruit de chaîne. Clairon. Ô ciel, qu'entends-je ? Rosaura. Je ne sais quel sentiment m'a rendue immobile, tremblante et glacée. Clairon. N'est-ce pas le bruit d'une chaîne ? Que je meurs s'il n'y a pas là un galérien. Ma peur ne m'a jamais trompée. Sigismond. Dans la caverne. Hélas, malheureux, hélas, infortuné. Rosaura. Quelle triste voix. J'éprouve une nouvelle peine et de nouveaux tourments. Clairon. Et moi, de nouvelles craintes. Rosaura. Clairon ? Clairon. Madame ? Rosaura. Fuyons les périls de cette tour enchantée. Clairon. Je voudrais bien, madame, mais je n'ai pas même assez de courage pour fuir. Rosaura. Mais n'aperçois-je pas une faible lumière ? une pâle clarté, une sorte d'étoile vacillante dont l'éclat incertain et irrégulier augmente encore, s'il est possible, l'obscurité de cette ténébreuse habitation. Oui, à ses reflets, je distingue, quoique de loin, un cadavre vivant qui est enseveli dans cette sombre prison. Et pour augmenter mon effroi, cet homme, qu'éclaire une triste lueur, porte pour vêtement une peau de bête. Il est chargé de fer. Fuyons, ou du moins, puisqu'il ne nous est pas possible de fuir, écoutons d'ici ses plaintes. Entre Sigismond. Il est enchaîné et couvert de peau de bête. Sigismond. Hélas, malheureux! Hélas, infortuné! Ô ciel, je voudrais savoir, au moins, dans mon malheur, quel crime j'ai commis contre toi en naissant. Est-il juste, à toi, de me traiter aussi cruellement, puisque mon seul crime est d'être né? Et si cela devait m'être imputé à crime, ne devais-tu pas m'empêcher de naître? Car, pour justifier ta rigueur, tu n'as rien autre à me reprocher. Est-ce que le reste des êtres animés n'ont pas une essence ainsi que moi? Et si tous, ainsi que moi, ont une essence, pourquoi donc jouissent-ils de privilèges qui m'ont été refusés? L'oiseau naît, et à peine est-il une fleur qui a des plumes et un bouquet qui a des ailes, que, revêtu de sa parure charmante, il s'élance de son nid bientôt oublié et fend d'un vol léger les plaines de l'air. Et moi qui ai plus d'âme, j'ai moins de liberté. La bête sauvage naît, et dès que sa peau est marquée de ces lâches égales, qui y semblent tracées par le plus habile pinceau, elle traverse les forêts en bondissant, et pressée par la nécessité, déchire sans pitié tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Et moi, avec de meilleurs instincts, j'ai moins de liberté. Le poisson naît, et à peine est-il sorti du limon et des algues marines où il fut déposé. À peine, couvert d'écailles, peut-il se mirer sur les eaux, que, poussé par son caprice et la température de l'humide élément, il parcourt en tous sens l'immensité des mers. Et moi, avec plus d'intelligence, j'ai moins de liberté. Le ruisseau naît, couleuvre argentée qui se détache parmi les fleurs, et à peine est-il sorti de son berceau parfumé, qu'il se déroule en longs plis avec un doux murmure, et traverse en chantant la plaine qui s'ouvre devant lui. Et moi, avec une vie plus complète, j'ai moins de liberté. Aussi, quand j'y songe, mon sein se soulève d'indignation, et comme un volcan, il est prêt à lancer feu et flamme. Quelle justice, quelle raison, quelle loi permet donc de refuser à un homme le doux privilège, le droit précieux que Dieu accorde au ruisseau cristallin, au poisson, à la bête sauvage, à l'oiseau? Rosaura. Ces paroles m'ont inspiré tout à la fois de la crainte et de la pitié. Sigismond. Qui donc a écouté mes plaintes? Est-ce vous, Clotaldo? Clairon. Dites que oui. Rosaura. Non, ce n'est pas lui. C'est un infortuné qui, dans ces tristes lieux, avait entendu vos gémissements. Sigismond. Eh bien, tu vas mourir, car je ne veux pas qu'il existe personne qui soit instruit de ma faiblesse. Et seulement parce que tu m'as entendu, je vais te presser entre mes bras robustes et te mettre en pièces. Clairon. Pour moi, je suis sourd, et par conséquent, je n'ai pas pu vous entendre. Rosaura. Si tu as en toi quelque chose d'humain, me voilà à tes pieds. Épargne-moi. Sigismond. Je ne sais par quelle secrète puissance, mais ta voix m'attendrit et ta présence me trouble. Qui es-tu? Car bien que je ne connaisse rien du monde, puisque cette tour, ou pour mieux dire cette caverne, a été jusqu'ici mon berceau et mon tombeau. Bien que depuis ma naissance, je n'ai jamais vu que cet affreux désert, où je n'ai qu'une misérable existence aussi monotone et aussi triste que la mort. Bien que je n'ai jamais parlé à aucun être vivant, si ce n'est à un homme qui partage ma disgrâce, et qui m'a donné quelques renseignements sur le ciel et sur la terre, sur le cours des astres, sur l'art de gouverner les États. Bien qu'à vrai dire, ce qui cause ton effroi, je sois un homme parmi les bêtes sauvages, et une bête sauvage parmi les hommes, et que tu puisses à bon droit m'appeler un monstre. Toi seul, sache-le, tu as suspendu ma colère, adouci ma tristesse, et charmé mon oreille et ma vue. Chaque fois que je te regarde, je t'admire davantage, et à mesure que je te regarde, je désire davantage te regarder. Je ne comprends pas que mes yeux se fixent ainsi sur toi, car en te voyant, je meurs d'envie de te voir. Mais qu'importe, laisse-moi te voir, et que je meure. Car si, à te voir, je ressens un tel effet, que ressentirais-je donc à ne te voir pas? Ne serait-ce pas une douleur cruelle, une fureur, une rage pire que la mort? Car, après avoir vécu si malheureux, ne serait-ce pas horrible de mourir au moment du bonheur? Rosaura, je te regarde avec effroi et t'écoute avec admiration, sans savoir ni ce que je puis te dire, ni ce que je dois te demander. Je te dirai seulement que le ciel m'a conduit, aujourd'hui, en ces lieux, afin sans doute que je fusse un peu consolé. Si toutefois, c'est pour un malheureux une consolation que de voir un homme plus malheureux encore. On raconte d'un certain sage, qui était si pauvre qu'il n'avait pour toute nourriture que les herbes qu'il pouvait cueillir, qu'un jour, comme il disait à part soi, « Est-il un homme plus pauvre et plus misérable ?» Et comme là-dessus, il avait regardé en arrière, il eut réponse à sa question. Car il aperçut un autre sage qui ramassait soigneusement les feuilles qu'il jetait. Moi, de même, j'allais par le monde me plaignant de la fortune. Et tandis que je disais à part moi, « Est-il un mortel plus maltraité du sort ?» Toi, plein de pitié, tu m'as répondu. Car ma conscience me dit que tu ramasserais mes peines pour en faire ton allégresse. Si donc, par hasard, mes chagrins peuvent être pour toi un soulagement, une consolation, veuille en écouter le récit et prends-en ce que j'en aurai de trop. Pour commencer, Clotaldo, du dehors, garde de cette tour qui, soit paresse, soit lâcheté, avait laissé pénétrer deux personnes dans la prison. Rosaura, j'éprouve une nouvelle inquiétude. Sigismond, c'est Clotaldo, mon gardien. Ai-je à redouter de nouvelles disgrâces ? Clotaldo, du dehors. Avancez, accourez sans retard, et sans qu'elle puisse se défendre, arrêtez-les ou tuez-les. Tous, du dehors. Trahison, trahison ! Clairon, garde de cette tour qui nous avait laissé entrer ici, puisque le choix nous est donné. Contentez-vous de nous arrêter, ce sera le plus commode. Entre Clotaldo et des soldats. Clotaldo tient un pistolet. Tous les soldats ont le visage couvert. Clotaldo, couvrez-vous tous le visage, car il importe, tant que nous serons ici, que personne ne nous voit. Clairon, il paraît qu'on va masquer dans ce pays. Clotaldo, oh, vous qui, par ignorance sans doute, avez franchi les limites de ce lieu retiré, contrairement au décret du roi, qui défend à qui que ce soit de venir voir celui qui vit prisonnier parmi ces rochers. Rendez-vous, rendez vos armes, ou bien ce pistolet que je tiens va partir en vomissant deux balles, dont chacune donnera la mort à l'un de vous. Sigismond, avant que ces personnes reçoivent de toi la moindre injure, tyran farouche et cruel, je me serais moi-même donné la mort au moyen de ces fers. Oui, j'en jure par le ciel, tout enchaîné que je suis, je me déchirerai avec les mains, avec les dents, et je me briserai contre ces durs rochers, plutôt que de leur voir subir un outrage dont mon cœur serait désolé. Clotaldo, ne sais-tu pas, Sigismond, que ta destinée est telle qu'avant même ta naissance tu fus, par la loi du ciel, condamné à mourir ? Ne sais-tu pas qu'au milieu de ces rochers, tu ne peux te livrer qu'à une fureur impuissante ? Pourquoi donc fais-tu entendre ces provocations ? Aux soldats, qu'on le ramène dans sa prison, et que la porte en soit fermée sur lui. Les soldats font rentrer Sigismond dans la caverne. Sigismond, du dehors. Vive Dieu ! Vous avez raison de m'ôter la liberté, car, semblable au géant de la fable, j'aurais entassé rocher sur rocher pour vous attaquer tous ensemble. Clotaldo. C'est peut-être parce qu'on avait prévu la violence de ton caractère que tu souffres tous ces maux. Rosaura. Puisque la fierté à ce point vous offense et vous irrite, il serait insensé à moi de ne pas vous demander humblement la vie qui est à vos pieds. Laissez-vous toucher de pitié en ma faveur, si vous ne voulez pas qu'on dise que vous traitez avec une égale rigueur et celui qui est fier et celui qui est humble. Clairon. Et si ni la fierté ni l'humilité, ces personnages si importants et si écoutés dans les autos sacramentales, ne peuvent toucher votre cœur, moi qui ne suis ni fier ni humble, mais un milieu entre les deux, je vous prie de vouloir bien nous protéger. Clotaldo. Holà ! Des soldats. Seigneur ? Clotaldo. Ôtez-leur à tous les deux leurs armes, et bandez-leur les yeux, afin qu'ils ne voient pas où on les emmène. Rosaura. Voici mon épée. C'est à vous seul que je la remets, car vous êtes ici le chef, et je ne voudrais pas la rendre à un homme moins considérable. Clairon. Pour la mienne, je puis vraiment la rendre au premier venu. Au soldat. Tenez, prenez. Rosaura. Et si je dois mourir, je veux, en reconnaissance de cette grâce, vous laisser ce gage d'un grand prix, à cause du héros qui l'a porté. Gardez-la bien, je vous le recommande. Car si je ne sais pas précisément quel secret est attaché à cette épée, je sais qu'elle enferme de grands mystères, et je savais que je pouvais compter sur elle pour venir en Pologne, me venger d'un affreux outrage. Clotaldo à part. Saint du ciel, qu'est ceci? Mes ennuis, mes peines, mes chagrins pouvaient donc augmenter. À Rosaura. Qui te l'a donnée, cette épée? Rosaura. Une femme. Clotaldo. Son nom. Rosaura. Je dois le taire. Clotaldo. Dis-moi donc, au moins, sur quoi tu te fondes pour penser qu'il y ait un secret en cette épée. Rosaura. La personne qui me l'a donnée m'a dit « Pars pour la Pologne, et tâche, par ruse et adresse, que les nobles et les principaux du pays te voient cette épée, car, par ce moyen, tu trouveras auprès de l'un d'eux secours et protection. Mais, dans l'idée que ce seigneur était peut-être mort, on n'a point voulu me le nommer. » Clotaldo, à part. « Que le ciel me protège ! Qu'ai-je entendu ? Il m'est impossible de dire si une pareille aventure est la vérité ou une fiction. C'est bien là l'épée que je laissais à la belle Violante, en promettant que celui qui me la rapporterait me trouverait avec le dévouement d'un fils et la tendresse d'un père. Que dois-je donc faire dans une situation si difficile, alors que celui qui m'apporte cette épée, qui doit être si puissante sur moi, arrive frappé d'une sentence de mort? Quelle position cruelle! Quelle affreuse destinée! Ô inconstance de la fortune! C'est mon fils, c'est bien lui. Ce gage me le garantit, et mon cœur me l'assure. Mon cœur qui tressaille de joie dans ma poitrine, comme pour s'élancer vers lui. Mon cœur qui, semblable au prisonnier, lequel, entendant du bruit au dehors et ne pouvant s'échapper, se précipite à la fenêtre afin de voir ce qui se passe, dans l'impuissance où il est de sortir de mon sein, monte vers mes yeux, qui sont en quelque sorte la fenêtre de mon âme, et s'en échappe en des larmes pleines de douceur. Que faire, grand Dieu, que faire? Le conduire au roi? Hélas, c'est le conduire à la mort. Le soustraire aux yeux du roi? Je ne le puis comme loyal vassal. D'un côté, l'amour paternel m'implore, d'un autre côté, la loyauté me commande. Mais pourquoi hésiter? La fidélité que je dois au roi ne doit-elle point passer avant ma tendresse pour mon fils? Que ma loyauté ne subisse donc aucune atteinte, et qu'il advienne de mon fils ce que le sort voudra. D'ailleurs, n'a-t-il point dit tout à l'heure qu'il venait se venger d'un outrage? Or, l'homme outragé n'est-il pas un infâme? Or, un infâme peut-il être mon fils? Peut-il être formé de mon sang? Mais, d'autre part, s'il lui est arrivé quelqu'un de ces malheurs auxquels nous sommes tous exposés. Car l'honneur est chose si délicate qu'un souffle le ternit et qu'une parole l'enlève. Que pouvait faire de plus l'homme le plus généreux que de venir, à travers tant de périls, chercher réparation et vengeance ? Oui, c'est mon fils, c'est mon sang. Je le reconnais à son courage, à sa valeur. C'est pourquoi, dans l'incertitude où je suis, le seul parti que j'ai à prendre, c'est d'aller au roi et de lui dire « Voilà mon fils, tuez-le. » Qui sait ? Peut-être le roi se laissera-t-il toucher en ma faveur, et alors, mon fils, vivant, je l'aiderai à se venger. Et si le roi, constant dans ses rigueurs, le condamne à mourir, il mourra du moins sans savoir que je suis son père. À Rosaura et à Clairon. Suivez-moi, étranger, et soyez persuadés qu'il est des hommes aussi malheureux que vous. Car, en songeant à notre situation respective, je ne sais lequel vaut mieux de vivre ou de mourir.